C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Retrouvons tout de suite Martin McGuire pour amorcer l'émission de ce soir, quelques heures après la mise sous contrat de Lane Hutson. Bien le bonsoir, Martin.
Salut, Mario.
On s'y attendait. Il y avait toujours la possibilité qu'on essaie de le convaincre de rester une année de plus dans les rangs universitaires. Mais lui, il avait l'intention, je pense, de jouer chez les pros le plus tôt possible.
Ouais, écoute, on rappelle aux gens, c'est un contrat d'entrée chez les professionnels. Ça couvre les trois premières saisons. Et un peu comme Juraj Slafkovský et bien d'autres, là, les termes de ces contrats-là sont presque régis d'avance par la convention collective. Alors, il n'y a pas grande surprise là-dedans. Là, Hutson va empocher un salaire de moins d'un million pour ses trois premières saisons, si bien sûr il se joint et il fait le grand club, comme on le dit. Et bien évidemment, comme tu l'as dit, c'était à prévoir. Mais je veux dire une chose, Mario. Dans le dernier mois, j'irai même pas trop loin. Je parlerai pas du dernier mois, je te parlerai plutôt des derniers 2-3 semaines. Il y a eu un peu de suspense dans ce dossier-là. Et Danny t'en avait parlé un petit peu précédemment, là. Parce qu'on connaissait pas vraiment les plans réels de Lane Hutson. Il a laissé planer un peu de doute là-dedans, Mario. Puis à un moment donné, il y a Boston University qui a demandé aux Canadiens de ne pas s'approcher du jeune homme pendant que l'équipe était en cours de série, en fait. Là-bas, c'est plus un championnat que des séries, là. Ça a peut-être créé un peu d'insécurité, Mario, autour du Canadien par rapport à Lane Hutson, parce que on veut pas l'échapper. Quand ils l'ont repêché, Mario, il y a 2 ans, c'était, je dirais pas un risque, parce que, bon, quand tu repêches quelqu'un en deuxième ronde, tu prends pas un risque énorme.
Mais c'est le gabarit, c'est juste le gabarit, ça. Parce que le potentiel, le talent n'a jamais fait l'objet de beaucoup, beaucoup d'argumentation, là.
C'est sûr, puis tu sais, moi je me souviens de l'avoir rencontré la journée de son repêchage et tout, puis je me souviens de lui avoir dit, tu sais qu'il y a pas beaucoup de défenseurs de moins de 6 pieds qui ont gagné la Coupe Stanley, hein. Puis je le vois encore me regarder avec un regard de feu en me disant, ben écoute,
va moi, donc chez le diable.
Oui, peut-être qu'il a pensé ça, mais ce qui est sorti de sa bouche, c'est moi je veux faire la différence, moi je veux changer ça. Alors enfin il est signé, puis il va venir rejoindre l'équipe dimanche soir. Dimanche donc, au moment où nous on va se déplacer vers Détroit.
Va-t-il jouer?
Ben, écoute, la question, là-dessus, on n'a pas de réponse, parce que quand on a rencontré les gens du Canadien aujourd'hui, je parle de Martin Saint-Louis, des joueurs, là, la nouvelle n'avait pas été annoncée. Probablement qu'à l'interne, tout le monde le savait que Hutson avait signé, mais la nouvelle n'avait pas été annoncée vraiment. Puis même, je vais te dire qu'avant le match contre les Islanders, j'avais questionné Martin Saint-Louis, qui était resté un petit peu, je dirais, général dans la réponse, mais Mike Matheson lui avait dit, ben quand Lane va être avec nous autres, tu sais, on va l'aider. Alors c'était devenu plus personnel dans la bouche de Mike Matheson. Mais ceci dit, on rencontre les gens du Canadien, puis c'est pas encore annoncé. Mais probablement que eux le savent que Hutson s'en vient les rejoindre. Puis tu sais Mario, il est né au Michigan, Lane Hutson. Il vient de Holland au Michigan. Alors de lui faire jouer son premier match potentiellement à Détroit lundi soir, ben pour lui, c'est jouer à la maison. C'est un peu comme si le Canadien avait signé un Québécois et qu'il avait la chance de jouer son premier match au Centre Bell. Puis, c'est quand même intéressant, Mario, parce que si on décide de le faire jouer lundi soir à Détroit, il aura cassé la glace, il aura mis un pied dedans avant de jouer peut-être son premier match au Centre Bell le lendemain. Là, je vais un peu loin, là, mais quand même, je te dirais que les planètes sont quand même bien alignées pour que Hutson vienne rejoindre l'équipe à Détroit, parce qu'il vient du Michigan.
Par ailleurs, tu as assisté à l'entraînement aujourd'hui, là, au lendemain de la défaite hier en prolongation contre les Islanders, et tu as constaté que l'ambiance, là, malgré le fait que tout le monde sait que les vacances s'en viennent, que la fin de saison est proche, que l'ambiance était très, très bonne.
Tu sais, il y a deux affaires qui peuvent... commençons par une chose qui peut motiver les joueurs du Canadien, c'est-à-dire causer les troubles fêtes. Bon, hier, ils jouent contre les Islanders. On sait qu'on peut mettre un peu de plomb dans l'aile dans leur projet de faire les séries. Alors ça, c'est motivant. Pour les deux matchs contre Détroit, on sait que peut-être que le Canadien aura le sort des Red Wings dans leurs mains pour les deux matchs qu'ils vont jouer contre eux. Mais contre les Sénateurs, il n'y a plus d'enjeu. Les Sénateurs sont éliminés, le Canadien est éliminé. Mais il y a beaucoup plus la fierté, Mario, parce que si le Canadien perdait ici demain soir, là, il serait balayé par les Sénateurs d'Ottawa. Puis tous les joueurs du Canadien savent pertinemment que d'être balayé par les Sénateurs, c'est une équipe contre qui le Canadien a une rivalité quand même assez intense au cours des dernières années. Ils veulent pas ça, Mario. Alors ça les motive. Tous les joueurs du Canadien qui ont grandi dans l'organisation, que ce soit Primo qui va garder les buts demain soir, Harvey Pinard, tous les gars qui ont passé par le club école, Mario, là, ils ont détesté les Sénateurs à partir des matchs des recrues jusqu'au match de la Ligue nationale. Puis Caden Primo a dit « On s'aime pas ». C'est un peu comme ça. Il dit « Ils nous aiment pas et nous ne les aimons pas ». Alors, c'est peu dans cette ambiance-là que le match de hockey demain va être joué. Mais ce qu'on a vu à l'entraînement aujourd'hui, Mario, puis ce qu'on a vu dans les derniers entraînements, il n'y a pas de perte de temps chez le Canadien. Tout le monde est à l'ouvrage. Puis on va entendre Raphaël Harvey-Pinard parler de la passion du coach. Puis moi, je posais la question à Martin, est-ce que ça part pas un peu toi de faire en sorte que tout le monde soit à la tâche, même s'il n'y a plus d'enjeu? Alors, on va écouter Raphaël Harvey-Pinard, mais d'abord Martin Saint-Louis.
Ça fait partie de la job du coach. Tu sais, c'est les attentes, il faut qu'elles soient réalistes. Puis la progression est belle de notre équipe cette année. Fait que c'est, si tu fais juste focusser ses résultats, c'est dur de continuer d'avancer au stage où ce qu'on est. L'atmosphère est excellente parce que l'attitude des gars est bonne, l'éthique de travail est bonne. Puis c'est une année qu'on est très compétitif. On espère qu'on continue de progresser pour passer à l'autre niveau d'être juste compétitif.
Sens-tu que des trucs comme ça, ça incombe d'abord à toi, tu sais, de partir avec cette attitude-là, puis qu'ensuite ça se propage chez les joueurs?
Oui, c'est sûr. Je pense que l'attitude positive est contagieuse. L'enthousiasme est contagieuse. Ça part d'en haut. Si t'as la baboune, tu viens à la job avec la baboune tout le temps, mais c'est dur que le monde alentour de toi, ils n'auront pas la baboune aussi, là, tu sais. Fait que c'est pas un environnement qu'on veut avoir, mais en même temps, on n'est pas ici juste pour le plaisir, on est ici pour le travail. Puis tout ce qu'on fait, on amène ce travail-là. On amène beaucoup de vérité dans comment qu'on analyse les affaires. Fait que je pense que ça reste les gars dans une bonne place. Mentalement pour rester à la tâche.
Je pense que dans l'équipe, c'est tous des gars qui sont passionnés. Tout le monde aime ça jouer au hockey. Fait que ça ajoute de l'ambiance pendant les pratiques. Puis on se crée des petits challenges en équipe aussi pour finir l'année en force justement. Même si on est en dehors des séries, on va aller chercher ces points-là puis on veut finir sur une bonne note. C'est un gars qui est passionné aussi. Il nous pousse dans la direction qu'on veut. Il veut qu'on gagne aussi. Il veut pas laisser de points sur la table. Puis je pense qu'il est tellement un bon motivateur. Ses speeches dans la chambre, même si on est éliminé, c'est toujours incroyable.
On dirait que Raphaël venait tout juste d'entendre un speech de motivation de Martin Saint-Louis à l'entendre parler pendant l'entraînement. Le Canadien qui est en quête d'une 31e victoire, ce qui égalerait son total de l'an passé. Ils ont déjà surpassé le nombre de points. Et le point, fait marquant qu'on ne peut souligner, c'est que ils ont en temps régulier 9 défaites de moins parce que ils sont allés en prolongation beaucoup plus souvent cette année. Donc 30 victoires, 36 défaites en temps régulier contre 45 l'an passé et 13 défaites en prolongation. Si tu avais à choisir un joueur le plus utile cette année chez le Canadien, Martin, pas évident. Ben, est-ce que Mike Matheson serait parmi tes candidats?
Il serait un finaliste. Il serait un finaliste, mais je pense que le joueur par excellence du Canadien cette année, c'est Nick Suzuki. Selon moi, là, pour moi, il n'y a pas beaucoup de réflexion de ce côté-là. Mais c'est sûr que Mike Matheson serait pas loin de Nick Suzuki. Mario, il va terminer cette saison-ci sans jouer les séries. Puis je peux te dire que s'il y en a un que ça énerve tout le monde, là. Mais s'il y en a un que ça énerve, puis là, j'utilise un mot poli en disant énerve plutôt que écœur, c'est Mike Matheson. Parce que il dit souvent, on sera pas dans les séries, on n'aime pas ça, on n'est pas de bonne humeur, on veut aller dans les séries. Mais Mario, c'est 60 points, 50 passes. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs dans l'histoire du Canadien qui ont obtenu 60 points dans une saison. Il y en a, mais pas autant que vous pouvez croire. Alors, c'est un accomplissement. Matheson, lui, a dit, Mario, je suis un gars différent maintenant. C'est surtout de la maturité au niveau mental. Parce que Matheson s'auto-flagellait beaucoup. Du moins, c'est ce qu'il nous a laissé entendre aujourd'hui. Puis que maintenant, ça aide davantage à tirer le à aller au meilleur de lui-même. On va l'écouter.
Je suis chanceux de jouer avec des joueurs qui sont vraiment bons. Tu n'as pas 50 assists sans des joueurs qui sont très, très bons sur la patinoire avec toi. Je regarde cette année, puis je me rappelle beaucoup de plus des jeux que j'aimerais avoir, puis faire quelque chose de différent. Donc, pour moi, je pense que c'est excitant de savoir.
Tu te dis tantôt que tu étais très dur sur toi, mais est-ce que l'expérience fait en sorte que tu vas peut-être passer plus rapidement à autre chose, ce bagage mental-là qui explique pourquoi tu as eu des bons résultats aussi?
Je pense que oui, c'est sûr que c'est une sorte de maturité. Puis je trouve que j'ai l'habileté d'être, comme j'ai dit, honnête avec moi, puis avec moins d'émotion peut-être. De regarder mes matchs, même des matchs où j'avais peut-être 3 points, puis en savant que j'ai vraiment pas bien joué. Puis il y a des matchs que j'étais peut-être moins 2, moins 3, puis j'ai quand même bien joué. Donc de pas me mêler, puis de pas si c'est les points ou le plus-minus des deux bords, de pas penser que j'ai joué moins bien et plus bien que je pensais, puis vraiment juste être honnête avec où j'étais, puis de continuer à travailler sur les affaires que je dois m'améliorer.
Mike Madison, le défenseur des Canadiens. Mmh. Martin, presque en terminant, je te demanderais à quoi tu t'attends dans l'utilisation des gardiens de but pour les 3 derniers matchs?
Ben écoute, Martin Saint-Louis donne ses plans un match à la fois, mais demain c'est Primo, puis là il y a un 2-2. Primo a gagné à Détroit cette année. Je serais pas surpris de voir Primo pour un deuxième départ d'affilée. Pour ultimement utiliser Montembeau pour le dernier match, mais ça c'est ma petite théorie à moi. Caden Gourlay a pas patiné aujourd'hui, il est peut-être pas tout à fait prêt à jouer demain parce qu'il accompagne l'équipe pour le voyage. Pour lui, ça va peut-être être plus à Détroit. Et Jake Evans a été retiré de l'entraînement sur glace aujourd'hui, mais on nous a dit qu'il y avait pas de risque pour lui demain pour jouer contre les Sénateurs. Alors Primo demain. C'est ce qui est réglé, en tout cas.
Ben, très bien, Martin. Alors, bonne soirée à Ottawa. On est avec Danny et toi à compter de 18h demain, évidemment, pour l'avant-match. 3 petits matchs encore, puis les vacances, le début des séries. Alors, un gros merci, Martin.
Salut, Mario. Bonne soirée, bonne émission.
Merci beaucoup.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Alors, de la belle visite ce soir, je salue mon ailier droit après avoir salué Jerv, mon complice évidemment des vendredis de Ça sent la coupe, Stéphane White. Salut mon Steph.
Salut mon chum, comment ça va?
Ça va bien, tu frappais ton premier panier de
balle. Ben, c'est drôle, je t'écoutais en m'en venant, puis j'ai mis mes bâtons moi aussi dans mon auto. Puis même raison pour que toi aujourd'hui, la pluie a cancellé mon panier.
T'étais prêt?
Ah, j'étais prêt.
Oh, OK. Ouais. Fait que ça ne saurait tarder. Non. De la belle visite qui dit golf, et on lui parle depuis des années au 98.5 aux amateurs de sport. Il a sans doute regardé attentivement les 2 premières rondes du Masters de notre ami Ben Boudreau, le pro du parcours du cerf. Salut mon Ben.
Salut mon ami Mario. Ouais, les gars, en passant, vous auriez pu venir au parcours du cerf. On a une belle abri pour frapper des balles. Ah. On a des chaufferettes. Puis même cette année, on a le Top Tracer.
Le Top Tracer, c'est-à-dire...
Oui, ah oui, comment... C'est un système dans lequel tu frappes des balles, tu peux voir la trajectoire de ta balle, tu peux voir ton élan, tu peux même jouer un parcours de golf, donc j'invite tout le monde. Oh. On a 20 places disponibles, c'est sur à l'intérieur, donc... On attend beaucoup de monde.
Vous arrêtez pas de progresser, le parcours du cerf. Honnêtement, probablement, je sais pas s'il y a un plus beau club... un des très beaux clubs publics, municipal certainement, au top au Québec. Là.
Ah, c'est sûr et certain, Mario. Ça fait des années, puis on réinvestit à chaque année sur le parcours. On s'assure de garder des conditions de jeu presque impeccable parce qu'on aime avoir du monde, on a des patrouilleurs qui travaillent fort, le temps de jeu est agréable. Donc, les viandes viennent chez nous, puis on a une salle à manger exceptionnelle. Donc,
puis bye-bye le 12 trous.
Bye-bye le 12 trous, c'est terminé. Il y a beaucoup de terrains de golf qui ont fermé dans les alentours autour de chez nous. La Prairie a fermé.
Riviera.
Donc, il y en a plusieurs qui ont fermé. Donc, la demande pour les 18 trous était là. Puis au fil des années, le 12 trous, il faisait ce qu'il pouvait, mais cette année, on a décidé, finalement, c'est terminé. Donc, on revient 36 trous, brocart et fin. Donc, la saison s'annonce très bien.
Ben, j'espère. J'ai jamais joué 12 trous. Vous n'avez pas essayé ça, personne? Non, moi, non.
Oui, cause de la pluie.
ouais, comme certains joueurs au Masters hier qui n'ont pas pu compléter leur ronde. D'ailleurs, il y en a qui ont joué comme Tiger, joué 23 trous aujourd'hui. Il est le vice-président chez National. On l'a connu dans plusieurs rôles, également au fil des ans, en course automobile. Vice-président également aux relations publiques et communications chez le Canadien de Montréal. Maintenant, de retour chez National, où il est en charge d'un gros dossier, c'est-à-dire les communications, les relations médias pour la Coupe des présidents qui aura lieu au mois de septembre prochain, du 24 au 29. J'ai nommé Paul Wilson. Salut, Paul.
Bonjour, Mario. Salut, les amis.
Comment vas-tu, Paul? T'es-tu un maniaque de golf à la base?
Oui, je suis un maniaque de golf. J'ai joué au golf depuis toujours, mais je dis toujours que j'adore le golf, mais le golf ne m'adore pas. Moi, j'ai un handicap 16-17 là, dans les bons... Puis je suis quand même un gars assez... j'ai un gros gabarit, mais je frappe pas la balle loin, étonnamment.
Okay.
Je sais pas, j'ai toujours eu une espèce de relation amoureuse entre le golf et moi. Mais okay. À toute fois que je m'installe sur le tee, dans ma tête, je vais jouer le par.
Tu pars plein d'espoir.
C'est jamais arrivé.
Mais c'est beau l'espoir, Paul. Moi, j'admire
ça. On vit d'espoir.
J'ai gardé ma dernière présentation pour le dessert. J'aurais pu amorcer avec si j'avais été le moindrement courtois, mais je trouvais que c'était une plus belle situation de la garder pour le dessert parce que on l'a annoncé sur les médias sociaux aujourd'hui. Elle devient la nouvelle voix, la voix du hockey féminin à l'antenne du 98.5 aux amateurs de sport. Elle fera partie de l'équipe avec Martin McGuire et Danny Dubé pour la toute première diffusion de l'histoire d'un match de hockey professionnel féminin à notre antenne et sur le réseau Cogeco le 20 avril prochain. Elle a lancé son podcast en parlant en intro d'émission tout à l'heure et ça fonctionne vraiment bien. Beaucoup d'efforts investis là-dedans. On sent que ses tripes sont sur la table dans tout ce qu'elle entreprend. Isabelle Étier qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue dans l'équipe, Isabelle.
Hey, merci. Quelle belle présentation. Merci, Mario. Bonsoir, messieurs.
Merci. Bon, Isabelle, tu sais, t'es femme de hockey, mais tu sais, j'ai découvert parce qu'on apprend à se connaître à travers le cheminement qui nous conduit à ce qu'on commence comme collaboration, mais t'es une femme qui aime vraiment tous les sports.
Oh oui, j'aime tous les sports. Je suis une joueuse de golf. Tu vois, moi, mon part, c'est un plus un. Si je peux jouer un bogey, je vais être contente parce que j'ai un handicap, un facteur d'handicap de 22, tu comprends? Okay. Fait que,
on peut y aller
avec
bon.
20,
oh oui,
on est deux.
C'est on y bon. Va avec...
Absolument. Très respectable.
C'est ça. Fait que je me dis, quand je fais un bogey, c'est un par. Quand je fais un par, je fais un birdie. C'est très positif.
Ah, comme j'aime ça, la façon de
Quand tu pas vous peur. Pensez qu'il joue en votre sang?
En pas tant que ça.
Non. 10%.
Ben, c'est sûr. Ouais.
Donc, vous êtes dans l'élite.
Wow!
Puis, tu sais, 10%.
J'ai bien fait de mettre mon veston vert.
10% seulement, ils ont bas de 100.
Wow! J'avais
C'est pas beaucoup. Non,
c'est
non,
pas
non.
beaucoup. Puis, tu sais, c'est de savoir si le monde compte tous leurs coûts également. C'est peut-être que...
On tombe à 3%, là.
Pierre, qu'est-ce que tu nous proposes comme petit vin pour le beau rassemblement qu'on a ce vendredi soir?
Comme petit vin, ce soir, on s'en va faire un tour au Chili.
Oh, oh!
C'est Cousino Macaul, Antigua Reserva, 2020. Ça, c'est dans des produits réguliers. C'est vraiment... écoute, tu peux goûter, là. C'est élégant, sans être feluet. la cerise noire, des épices, ça se boit très bien. Puis ça, c'est bon année après année. Lui est coté 91, là. 10,20 $, 19,20 $, c'est-à-dire.
C'est quoi la cote, explique-moi, honnêtement, 91?
Ben, c'est marqué dessus. Le 91, c'est Wayne. Fait qu'ils sont tout le temps fiers de mettre le... Quelqu'un qui l'a coté 91, de mettre sur le sticker, là. Fait qu'ils sont tout le temps fiers de ça. Fait 91 sur ça, naturellement.
OK, OK.
Et c'est le code 212-993. 93, ça finit comme 93, ça sent la coupe. 212-993. C'est arrangé que le gars des vues, mais vraiment très bon.
Oui, je le connais, ce vin-là, pour ça. Je l'achète à l'occasion. Avec un filet mignon ou un veau. Là,
ah, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est
ça bien fait la job. Alors, santé.
Ça fait la job, il se boit bien,
ça,
là.
Il se boit bien, ça. Il se boit tout bien.
Écoute, on verra pas le jour qu'il y en a un qui se boit mal. Je pense pas. Il nous le présenterait pas de toute façon.
Exactement.
T'en as goûté des mauvais vins, mais tu ne les amènes pas, c'est tout.
Mais habituellement, ben moi, je les goûte à la maison. Parce que, premièrement, je veux savoir s'ils sont bons. Si t'as réussi, t'as deux vins bouchonnés, ça va pas bien. Puis, écoute, je me fie sur bien des affaires pour... non, je n'irai pas choisir un vin, là. Mais de toute façon, là, comparativement à il y a des années, c'est dur de trouver un mauvais vin maintenant. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé là-dedans, ça fait 40 ans que j'adore le vin. Puis, il y a 40 ans, 30 ans, là, c'était dur de trouver un bon vin. Puis maintenant, c'est le contraire. Tu vois, le climat, puis les méthodes ont changé, puis tout ça. Fait que c'est vraiment très bon.
Ouais. Isabelle, un verre de vino, c'est, aimes-tu ça?
Hein? Ben, quand tu me dis un verre de vin, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit arrête ça, moi je prends bien. Non, j'adore le vin. J'aime vin blanc, vin rouge, mais moi, mon produit, c'est le champagne. Qu'est-ce que tu veux?
Les bulles.
Champagne rose, peut-être?
Non? Ah, ben, j'aime les blancs de noir. C'est rare que les gens connaissent les blancs de noir. Puis moi, j'aime beaucoup le blanc de noir. Il y en a un bon là, de veau. Là, je vous le ferai découvrir éventuellement.
Paul, tu viens-tu d'un souper bien arrosé avec le gérant de l'équipement dans tes années avec le Canadien, Pierre Gervais?
Tu m'enlèves les mots de la bouche. On a passé beaucoup de temps, Pierre et moi, surtout sur la route, là, à boire des bons vins, à avoir des longues jasettes.
Dans la bulle à Toronto. On est enfermé au Fairmont, je peux te dire que...
ouais. Puis la playoff contre Tampa aussi, là, je me souviens, sur le balcon en avant là, de... on allait chercher des vins, on s'allongeait toujours pour se retrouver une coupe de bouteilles, là, puis c'était belle fun.
Toronto, c'était un vin italien qu'on buvait, puis n'importateur privé, là, il a changé de char après. T'as fait de voyage de l'hôtel.
Ah oui, parce que dans la ville, on a passé du
temps.
On était 32 jours dans un hôtel, une chambre d'hôtel.
On avait rien faire, là.
Ben, les coachs, vous autres, tu faisais-tu inviter de temps en temps, Steph? C'était la même affaire pour vous autres, les coachs?
On avait notre salle à nous.
Ils avaient leur suite, eux autres, puis c'est moi qui s'occupais de la
s'occupait de nos commandes.
Ah oui? Mais comment ça marchait?
Au début, j'ai une commande, j'ai vu un bon de la semaine, sacrément.
Non, non, ça trop long.
Au deux jours, il y a un prier.
Amène du vin. Jerve, t'étais dans bien cheap, une caisse par jour, c'était pas assez.
Une caisse par jour.
Mais c'est pas ça, mais nous autres, on apprenait quatre de votre caisse. Non.
Il passait par l'autre pièce avant.
Fait que c'est là que ça venait, mon Jerve. J'ai jamais vu.
Je me souviens du vin, le Corona.
Oui, c'est vrai, grande Corona,
espagnol.
Effectivement.
C'était le Corona, oui, imagine-toi. T'as-tu le concept, à peu près?
Ah, wow.
Moi, vas-y.
Mais Paul et moi, on avait du meilleur.
On se gardait bon.
On se gardait bon, moi.
C'est toi qui nous avais recommandé ça.
Avec Burge, puis avec Hip Boy, on a vu, on a eu du fun entre moi.
Ça parle de quoi, une gang de hockey comme ça, dans la bulle, avec, après une coupe de bouteilles?
Tout
ça parle de
hockey. Tout sauf de hockey. Tout sauf de hockey.
On peut pas vraiment parler ici.
Non, c'est ça.
Pierre, ton grand cru est à Piquette cette semaine.
Mon grand cru cette semaine, c'est le tour du chapeau à Slavkovski. C'est sûr que c'était une game à sens unique et tout ça, mais quand même, il a fait son premier tour du chapeau. Je suis bien content de ça. Pardon, ma Piquette de la semaine, c'est, écoute, le match des Flyers. Tu peux pas arriver puis jouer une game comme ça. Tu sais, tu as 82 games dans l'année, je comprends que ça ne roule pas toujours bien, mais eux autres, c'était vraiment, vraiment... Écoute, tu peux pas faire ça. Les joueurs, là, animaux, là, s'ils étaient pas payés pour ce game-là, il n'y a pas un choc à Remsen, assurément. Là. Fait que moi, je trouve ça plate, bien, bien plate.
Oui, et cependant, leur soirée a été plus longue parce qu'ils ont été obligés de rester habillés dans le vestiaire pour faire face aux questions des médias. As-tu déjà géré une situation comme ça, Paul, comme VP au COM chez Canadien? As-tu déjà une situation qui s'est présentée comme ça où le coach, hey, vous allez tous rester là puis vous allez faire face à la musique?
Ben, en fait, moi, le temps que j'étais là, pas mal, c'était la pandémie, ça fait qu'on n'était pas dans le vestiaire. D'autres, on sortait les gars, soit qu'on faisait nos entrevues par... Ben en fait, la première année, 2018-2019, c'était correct. 2019-2020, ça a été un peu mélangé, là, mais j'ai jamais... En fait, il y a un journaliste qui se plaignait toujours puis qui disait que tous les joueurs devaient être, par le contrat de la Ligue nationale, devaient être assis. Alentour de pas le nommer, notre ami Pat Hickey de la Gazette.
Pat,
il était toujours, il me dit, les gars doivent être là, mais à la limite, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher les gars, les journalistes demandent, font la demande, puis parce qu'il y a des gars qui sont partis dans la douche, tu vas les chercher, puis on allait chercher Carey Price ou.
Sont-tu contents quand on leur dit qu'ils sont réclamés?
c'est tous des pros. Moi, j'ai toujours, il y a personne qui a fait la baboune pendant le temps que j'étais là. C'est tous des pros. Ils savent comment ça marche, puis est-ce qu'ils se garochent pour aller répondre aux journalistes immédiatement? Il y en a qui prennent plus leur temps. Absolument, c'est tout le pro.
Ouais, d'honnête, là, pendant le virus, le corona, là.
La COVID.
Comment
la COVID? T'es mélangé, toi, là.
La pandémie.
La pandémie.
Ce virus, il faut que le lendemain matin.
Pourtant, j'ai juste pris une gorgée, là. Mais, non, ça faisait l'affaire des joueurs que les journalistes sont pas dans la chambre.
Faut être honnête là-dessus. Non, t'as raison, Stéphane. Ouais. Ça a été pour eux autres, puis ça faisait l'affaire de tout le monde que les joueurs affectent. Parce que là, on allait les chercher trois à la fois, puis on les amenait dans la salle des conférences de presse. Puis là, il y avait un setup de c'était tout virtuel. Puis ça faisait leur affaire parce qu'ils n'avaient pas, effectivement, ils n'avaient pas à les gérer.
Aux Olympiques, d'ailleurs, c'est comme ça.
Ouais,
parce que un car wash, les gars passent tout par là. Les journalistes les attendent, puis... That's it. Personne majeur.
Stéphane, ton grand cru et ta piquette cette semaine?
Mon grand cru, c'est Sidney Crosby.
Oui, monsieur.
Je sais pas si ça vous dit de quoi. C'est 1000 passes hier, sa millième passe dans la Ligue nationale. Ça, c'est des passes, comme dirait Mose Dupont, là, c'est des passes en
temps.
En temps. Et puis, écoute, 1000 passes, c'est incroyable. Premièrement, je peux pas croire qu'il est rendu à 36 ans. C'est incroyable.
Et il a ramené les pingouins dans la course aussi.
Il a ramené
là.
Les pingouins dans la course. Ça fait 19 ans qu'il est dans la Ligue. Ce qui m'impressionne, c'est sa constance. À chaque année, il est là. Autre chose, Sidney, il était encore une fois, pour la cinquième année de suite, élu le joueur le plus complet de la Ligue nationale. Pas par les journalistes, pas par les GM, pas par les fans, par les joueurs. Ça, là, c'est le plus beau compliment que tu peux pas avoir quand un joueur est nommé comme ça par ses pairs.
Penses-tu que c'est du respect ou c'est le reflet de ce qui est encore aujourd'hui actuellement dans la Ligue?
Moi, je pense que c'est encore le reflet. Oui, il y a beaucoup de respect, mais c'est le reflet que qu'est-ce qu'il fait encore à 36 ans, encore dans les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Mais c'est pas juste un marqueur. Il est pas là juste pour ramasser des points. C'est un gars qui est un joueur complet et c'est ce que les joueurs ont dit de Sidney. Et puis, tu sais, je veux dire, mais l'honneur, quand ça vient des joueurs, c'est spécial. On se rappelle, moi, quand j'étais avec le Canadien, Carey, il avait été 6 ans en ligne que les joueurs le votaient. Si tu as gagné un 7e match, c'est qui tu veux dans le filet, puis c'était Carey. Mais ça, lui, ça lui faisait beaucoup plus plaisir que d'avoir le trophée Vezina qui est voté par les gérants.
Ou la Coupe Molson.
Ou la Coupe Molson, ou n'importe quoi, mais je veux dire,
oui.
Pour lui, ça c'était spécial. C'était spécial. Donc, mon grand cru, Sidney Crosby, Pierre, tu le connais bien, tu l'as eu aux Olympiques, j'allais eu à la Coupe du Monde, moi, quand j'étais avec l'équipe Canada. C'est tout un vrai. Quand on dit un vrai, là,
oui, c'est ça.
C'est un méchant leader.
Ta piquette?
Ma piquette. Ah, juste avant, pour mon grand cru, une petite pensée pour mes no-cantoniens de Magog. No-cantoniens
de
Magog.
Oui, les champions de la Ligue M18-3, certainement. Félicitations.
No-cantoniens de Magog. 4 championnats dans les 6 dernières années. C'est une petite tradition à Magog.
Incroyable.
C'est une tradition à Magog des cantoniers, une des plus vieilles concessions. Une concession, Mario a fait partie à l'époque que moi j'ai eu l'honneur d'être l'entraîneur et gardien de but pendant 12 ans, donc ça le fun, bien content pour eux autres.
Ouais, tu fais bien de le mentionner.
Et ma piquette, rapidement, c'est la Ligue nationale. C'est va falloir changer le fameux règlement. On apprend aujourd'hui que Mark Stone va revenir pour les séries. Mais ça, là, ça leur a permis d'aller chercher 2 joueurs pendant la période des échanges. 2 joueurs, Thomas Hurtle et puis Noah Hanifin. Mais avec ces 2 joueurs-là, là, puis que Stone revient, ils vont dépasser le cap de
encore?
9 millions.
Mmh.
De 9 millions. Et ça, c'est ce que Tampa a fait en 2021.
C'est ça que j'allais dire. L'année qui nous a battu.
Exactement. Et ça... Tu profites d'une blessure pour aller chercher des joueurs à la date limite d'une période des échanges et tu sautes le plafond salarial de pas à peu près, là, de 9 millions.
9 millions.
Et c'était la même chose en 21. Et ça, là, ça n'a aucun mot juste de bon sens. Ça se tient pas de bout. Une équipe qui n'a pas eu une blessure majeure à la limite des périodes des échanges peut pas aller se renforcer parce qu'ils n'ont pas de place sur le cap. Mais eux, parce qu'il y a un joueur qui est blessé, ils peuvent se renforcer.
Ouais.
Donc, ça n'a aucun bon sens. C'est comme, « Hey, Mark, ça te tente-tu de te blesser pendant les 2 derniers mois? » Ça ferait notre affaire.
Mark, t'as pas l'air affilé, mon Mark.
Ouais.
Isabelle?
J'ai un grand cru, moi. On est en mode Masters. Donc, c'est le concours de la Normale 3. De voir les enfants sur le terrain avec...
La fille de Boba Watson.
Ah, écoute...
Elle a volé le show.
Ben même la fille de Rick Fowler avec le garçon de Jordan Spieth qui étaient ensemble, qui couraient. C'était juste mignon. Et c'est beau de voir justement la famille, le côté humain de ces joueurs-là. On les prend comme des machines. T'sais, ils doivent performer tout le temps et les voir sur le terrain. Moi, je trouve que c'est un beau moment.
Ouais, ben, tu fais bien de le mentionner, parce que tu sais quoi, j'ai vu ça cette semaine, puis à travers toutes les émissions, puis les matchs, j'en ai pas parlé en ondes, fait que tu nous l'amènes. Et j'allais juste te demander, Ben, parce qu'avant qu'on parle de golf, après la pause, on va revenir sur le Masters plus en détail, mais je sais que t'es un amateur de hockey. Avec le grand cru de Stéphane sur Sidney Crosby, puis je fais un petit tour de table rapide. qui, à la fin de leur carrière, si Ovechkin bat le record de buts de Gretzky, dans l'imaginaire populaire, il dépasse-tu Crosby, selon toi?
Comme joueur?
Tu sais, comme quand on parlera des meilleurs joueurs de tous les temps, je veux dire, ça lui donne-tu, c'est comme le record des coups de circuit, le fait qu'il va détenir le record de buts, ça fait-tu qu'on va le regarder plus haut, Crosby?
Moi, je pense que oui. Oui. Parce que toutes ces... quand même, dépasser Wayne Gretzky au niveau des buts, c'est quelque chose, ça, là. Puis Gretzky,
on pensait même pas que ça arrivera un jour.
Jamais un jour. Ça va prendre peut-être deux saisons pour le faire. Peut-être pas une, peut-être deux, là. Mais on évalue toujours un joueur par rapport à ses records. Autant au golf que dans les autres sports.
19 années, cependant, avec une moyenne d'un point par match. Ça aussi, c'est un record de Sidney Crosby. C'est un record de constance et de longévité. Mmh, fait John, qu'est-ce qui a le plus de valeur, les 19 années de constance ou le record des coups de circuit?
Moi, je prendrais la constance. Je suis pas Sidney Ben, mais personnellement, là, je prendrais la constance. Sidney Crosby, c'est un gars extrêmement complet. Et puis... avoir le choix, là, on le disait tantôt, t'es en 7e en finale de la Coupe Stanley, là. Ovechkin, Crosby, je pense que Crosby, never again.
Paul, toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
L'équipe de Jerv.
Non, la
boy. Parce que, effectivement, puis en plus, c'est un gentilhomme, c'est vraiment, tu sais, il y a tout, il y a le package complet. Donc, puis, c'est ça.
Isabelle?
Je suis d'accord avec Jerv et avec Paul, parce que, aussi, Sidney va faire bien paraître les autres. Okay. Donc, moi aussi, 7e match, je prends
fait
Crosby.
Fait que le King va demeurer Sidney, oui, même Sidney. Puis toi qui as amené le sujet, Stéphane, t'es-tu d'accord avec le tour de table ou avec Ben? Je veux dire...
Ben moi, Ben, si je suis ton bord, tu m'invites-tu au golf?
Il
m'a
donné
une
coupe
de cours gratuit. Bon, non, j'irai avec Sidney, moi aussi.
T'es barré.
Sur ce...
Ça en prend tout le temps à part, hein?
C'est bon. On va te réinviter. Ça en prend quand tout le monde dit la même affaire. Ben, écoute... Lâche pas, on revient après la pause. On va parler un peu plus de golf. Et écoutez, on est ensemble pour un peu plus que la prochaine heure. Étienne Papineau va nous rendre visite via le téléphone également. Lui qui est sur le Korn Ferry Tour, le Québécois le plus près de la PGA. On revient tout de suite.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Paul Wilson, anciennement du Canadien, Grand Prix de Formule 1 chez National, la Coupe des Présidents, on va en parler tout à l'heure. Isabelle Lettier, femme d'hockey, collaboratrice avec nous maintenant, la voix du hockey féminin, Pierre Gervais, Stéphane White, Ben Boudreau du Parcours du Cerf. Ben, le Masters, tu as regardé les deux premières rondes, as-tu déjà vu autant de vent à Augusta? Écoute, c'était incroyable. As-tu vu la balle de Woodward au 17e? Le gars, il attend de faire son coup roulé, la balle part au vent.
Ça n'a pas de bon sens. Il y avait des vents de, je pense que c'était 42 000 à l'heure jusqu'à des rafales de 62. C'était incroyable, comme tu expliquais, Woodland au numéro 16e trou. Sa balle est à 4 pieds du trou. Là, il voit, oups, la balle est en train de bouger. Comme de fait, la balle est partie, a descendu peut-être environ 40 pieds plus bas. Mais les joueurs, là, ils devaient être fatigués, Mario, après la game.
Oh, hey, 23 trous. Tiger sur une jambe, 23 trous. Lui, il avait pas fini sa ronde hier. Il a recommencé au 14e un matin avec Max Homa, d'ailleurs, qui est parmi les trois meneurs, là.
En plus, deuxième ronde, 88 joueurs. Il y a seulement 8 joueurs qui ont joué en bas du par. C'est pas beaucoup, là. Mais si jouer sur des verres rapides comme ça, là, la connaissance du parcours était hyper importante aujourd'hui. Donc, on a vu que les joueurs qui avaient déjà l'expérience, qui connaissaient le parcours, ils savaient où manquer la balle. Parce que tu pouvais pas te permettre de jouer le drapeau aujourd'hui. C'était trop difficile. Quand ils sont arrivés au 11e trou, là, la piste est dans le fond à gauche, là. T'as le vent de côté comme ça, là. Tout le monde frappait à droite, puis il n'y a pas eu beaucoup de peur au 11e trou aujourd'hui. Donc, ça a été très difficile pour eux autres. Puis, le 15e trou. 15e trou, d'habitude, les joueurs, c'est driver, faire 5, faire 6. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui essaie de prendre le verre en deux. Peut-être Tiger le matin parce qu'il ventait un peu moins, mais dans l'après-midi, là, tous les joueurs ont lay-upé. Même Jordan Spieth s'est même permis un 9. Il avait joué 9 coups au 15e trou. Il a frappé son 3e coup, il a défoncé le verre, il a fait une approche, il est retrouvé dans l'eau, il a fallu qu'il se retourne l'autre côté du lac.
Ça arrive à des pros, ça, Bernays. Quel soulagement, gang.
Quel bonheur.
Non, mais ça, là, imagine, tu sais, quand ça nous arrive un trou de même, là, parce que ça nous est tous arrivé, là, c'est un vrai calvaire, là. Fait qu'imagine en pleine compétition avec les caméras, t'es un des meilleurs joueurs au monde, tu te tapes un 9.
Ah, c'était pas facile, mais tu voyais que, après le rond de golf, je le dis encore, là, quand tu sors du terrain, là, tu vas pas prendre 2-3 bières, là. En effet, si tu t'en vas à ton condo, à ta maison, tu vas te reposer parce que là, t'es fini.
Même John brûlé. Daly? Non, mais là, il était pas là.
Lui, il s'en allait au casino.
C'est pas plate, ça. C'est ça qui est le fun au golf. Fallait prendre deux, trois bières après.
pas ce soir. On s'en prend demain.
Est-ce qu'il y a une performance d'un joueur qui t'a impressionné?
Ah, moi, Scheffler, depuis un mois, il est incroyable. Deux victoires, une deuxième position. Il est encore là cette semaine. Mais tout le monde savait qu'il était très bon. Mais lui, sa faiblesse, c'était ses coups roulés. Il avait beaucoup de difficultés. Là, il est allé avec un poteur, un style mallet, un genre de demi-lune. Et depuis ce temps-là, là, il n'y a pas grand monde qui peut le battre. Donc, moi, je le vois encore gagner cette semaine, c'est sûr et certain. Mais il est numéro un au niveau des coups de départ dans l'allée, les coups de fer, les approches, les chips, les trappes. Et il est premier partout.
Wow. Donc, la constance incroyable.
Hein, incroyable.
Ouais, petite question de tour de table. Je pense que tout le monde regarde le Masters, mais êtes-vous des fans de golf ou des fans de Tiger Woods?
C'est sûr que quand Tiger est là, ça change la donne. T'sais, il veut pas, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a amené. J'aime le golf, mais Tiger amène une petite affaire de plus. On veut tout le temps qu'il performe bien. T'sais, on est content qu'il ait fait la cote. C'est encore un record aujourd'hui, si 24, je ne me trompe pas, hein, 24.
24.
Donc, 24, c'est quand même incroyable.
Réussi pour Tiger, ouais. Exactement.
C'est une machine.
Oui. Jeff, es-tu un fan de golf ou de Tiger?
Je suis un fan de golf, mais c'est sûr, un peu comme Isabelle, quand Tiger est là, c'est une petite notch de plus. Mais je suis un fan de golf.
On aime ça quand il est sur le terrain, Paul.
Ben moi, écoute, la première journée, le premier trou, il a fait un birdie. Le premier trou qu'il a joué quand
j'ai dit
en partant. Moi, j'étais excité.
Ben,
comme
moi, tout.
Je me souviens, j'ai tellement regardé ce gars-là. Moi, je suis un fan de golf, mais je suis un fan de sport en global. Mais Tiger Woods m'a tellement fait vivre des moments extraordinaires. Je peux pas faire autrement qu'être un fan de Tiger.
Oh, je suis en train de faire baisser la table. C'est une soucoupe à la nouvelle table.
C'est
mon bras de chaise à côte sur le piton des fois. Tout le monde était rendu
loin de chez nous. Mario va souvent des restaurants japonais. Il mange à tante. Il est où le walk?
Steph, fan de golf ou de Tiger? On aime tout Tiger, là, c'est sûr.
Oui, mais de golf. Non, c'est la plupart des dimanches, c'est devant ma télévision puis je regarde... La dernière ronde, que ce soit Tiger, que ce soit là ou pas, non, j'adore regarder le golf et puis surtout cette fin de semaine-là. Là,
t'en vois-tu un autre que Tiger qui vient te chercher que t'aimes regarder jouer?
Ben moi, j'aimais dans le temps, là je l'aime plus parce qu'il a traversé la ligne, là, Mickelson. À cette heure, là, écoute, depuis qu'il est rendu dans l'autre ligue, là, je l'aime moins. D'ailleurs, j'espère que ça sera pas un gars de la Livre qui va gagner cette année. C'est tout ce que j'espère. Et puis, non, mais là, cette année, j'ai un faible. C'est sûr, Tiger, c'est le fun, mais Rory McIlroy, ça serait le fun s'il pourrait gagner le Masters, mais là, ça va pas bien. Là.
C'est pas cette année, hein, Ben, qui va gagner?
Ça va être difficile.
Ben, Rory McIlroy, c'est pas cette année qu'il va gagner?
Oh non. Non, je pense pas. Je pense que
Rory, Tiger, il a joué avec toutes les autres. Hein? T'es-tu impressionné par la honte de Tiger aujourd'hui? Premières rondes, dans ces conditions-là.
Conditions-là, comme j'expliquais, les conditions du parcours, ça fait longtemps qu'il se prépare. C'est sûr qu'il est blessé, puis tu le quittes, mais là, il s'est préparé, puis quand on connaît son mental, la force de son caractère, là, il produit une jambe. Là.
Il dit qu'il a encore une chance de gagner, c'est ce qu'il a dit après sa ronde d'aujourd'hui. Mmh. Tu sais, mais lui, c'est dans la tête, il se voit gagner. C'est, des fois, comme des shots qui avaient l'air impossibles, il voyait, ça n'a pas tout le temps marché, mais il y a des shots que, je sais pas si c'est par de la télékinésie, là, mais il a fait des coups qui semblaient impossibles par une espèce de force de, je sais pas, de caractère, mais de concentration qui fait que c'est comme si, je sais pas comment le dire, ça se dit pas. C'est comme s'il y avait une télécommande avec la balle par moment, tu sais.
Je pense qu'il va être meilleur demain, moi. Aujourd'hui, là, il a joué du golf, il a joué beaucoup de trous, là, donc.
Il s'est battu, là, aujourd'hui.
Exact.
Là.
Demain, ça va être plus facile, 18 trous pour lui. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour lui.
Parce que c'est
comme
sûr.
Comme Ben disait, avec les vents et tout ça, là, ouf.
C'est ça que demain, le vent, il va se calmer un peu. Puis Tiger Woods, depuis 4-5 mois, s'il est blessé un peu, je pense qu'il a fait Tiger Woods pendant 5 mois. Il a dû poter, puis il pote, puis il pote, puis il pote. Mm-hmm. Il a pratiqué sa short game, sa long game.
1000 touches de balles par jour. Bon. 1000. 1000. Mm-hmm. Pas des farces, là.
Il se prépare-tu, tu penses? Il est prêt.
1000 contacts avec la balle par jour. C'est ça qu'il dit, sa préparation.
Moi, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant dans Tiger Woods, est-ce que vous avez la chance de le voir, là? Vous regarderez son putter. Il a tellement poté que son putter, la face de son putter au milieu est usée. Vous allez voir, il y a un petit cercle noir, là. Disons, le poteur est argent, là. T'as regardé, le milieu de son poteur, il est usé à force qu'il a pratiqué ce poteur-là.
On va se cotiser.
1000 touches de balles par jour. Nous autres, on arrive à la dernière minute sur le terrain de départ, on frappe pas de balles, puis on pense qu'on va jouer en bas de 80. Let's go, mon champion. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, parlant de champion, Étienne Papineau se joint à nous via le téléphone, le Québécois le plus près de la PGA.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Ah, comme tous les vendredis, c'est ça sent la coupe avec mes invités en studio, mes complices Stéphane White, Pierre Gervais, en studio Isabelle Étier de Femme d'Hockey, la voix maintenant au 98.5 de la LPHF, Ben Boudreau du Parcours du Cerf, Paul Wilson de la Coupe des Présidents. Et je pense que c'était tout à fait logique, puis on est content qu'il ait trouvé du temps pour nous ce soir, le Québécois le plus près de la PGA qui est sur le Korn Ferry Tour où il a accumulé actuellement 3 top 25 depuis le début de la campagne, un top 10, a participé à 7 tournois. Son prochain tournoi sera à Sarasota en fin de semaine prochaine. Nul autre qu'Étienne Papineau, qu'on est très heureux de recevoir. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir. Comment allez-vous?
Ben, ça va très, très bien. On est une belle gang. On parle de golf. C'est le week-end du Masters. Est-ce que c'est entré vite dans ta vie? Quand tu as commencé, je ne sais pas quel âge tu as commencé à jouer, Étienne, mais de regarder le Masters, ça s'est-tu vite installé dans tes habitudes d'amateur de golf?
Non, c'est sûr. Ma famille, du côté de mon père, là, c'était pas mal tous des golfeurs. Alors le golf, ça a rentré assez vite dans ma vie, puis la semaine du Masters, c'est tout le temps une semaine spéciale là, dans le monde du golf, ça c'est sûr.
Il y a bien des façons de se motiver, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller y jouer, d'aller fouler le terrain, mais est-ce que de regarder ce tournoi-là, ça peut être une des nombreuses sources d'inspiration pour ma foi continuer, je pense pas que tu as besoin d'aide de te motiver, mais est-ce que ça en est une source de motivation d'un jour rêver à aller jouer là?
Ben oui, non, c'est sûr, c'est le tournoi le plus prestigieux au monde, puis regarder les gars à TV, c'est sûr que c'est motivant, puis ça donne le goût de travailler encore plus fort pour un jour se rendre là puis jouer sur le fameux parcours de Augusta National.
Comment tu résumerais ton aventure sur le Korn Ferry Tour jusqu'à ce jour?
Une bonne saison jusqu'à présent, pour de vrai, très content du début de saison, en fait, un petit peu plus difficile... le dernier tournoi, manqué la coupure malheureusement la semaine dernière à Savannah, mais très content du début de saison. 3 top 25, je pense, jusqu'à présent, 5 coupures sur 7. Fait que on a encore du travail à faire, mais c'est une longue saison devant moi. Puis ça va demander beaucoup de patience, mais je pense que je suis prêt pour le défi. Là.
C'est quoi le plus grand défi? Puis qu'est-ce qui est le plus difficile d'améliorer? Parce que tu cherches toujours à t'améliorer pour rejoindre la PGA, mais c'est quoi les zones de ton jeu que tu souhaites ou tu souhaites t'améliorer?
Ben, je pense que pour moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est un petit peu plus de constance autour des verres, puis sur les verres. C'est quelque chose que je travaille beaucoup. Dernièrement, puis c'est ça, juste aller chercher un petit peu plus de constance à ce niveau-là, puis mais on a tous des maillons faibles, puis il faut les travailler, mais c'est ça, pour moi personnellement, c'est vraiment un petit peu plus de constance, je pense, qui me manque là encore.
Ben Boudreau du Parcours du Cerf. Ben.
Étienne, je sais qu'à voyager comme ça dans les chambres d'hôtel à tous les semaines, toi tu voyages avec ton cadet puis le kit, est-ce que tu trouves ça difficile ou c'est sûr que se préparer à chaque tournoi, là t'as manqué une coupure, ça veut dire que là tu ne pourras pas jouer au golf pendant quelques jours. Comment tu trouves l'expérience?
Ouais, non, c'est jusqu'à présent, tu sais, on a fait les 6 premiers tournois en Amérique du Sud, on est allé au Chili, en Argentine, Colombie, Panama, puis les Bahamas aussi. Fait que aller en Amérique du Sud, c'est le fun d'avoir mon cadet avec moi, c'est un de mes bons amis aussi, fait que l'avoir auprès de moi, ça facilite les choses pas mal, puis revenir aux États-Unis là, la semaine passée, c'était le premier tournoi qu'on avait aux États-Unis, on reste aux États-Unis jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est ça, manquer une coupure, c'est jamais le fun, mais en même temps, ça me donne le temps de travailler sur certaines choses, puis c'est ça qu'on a fait la semaine passée, puis cette semaine, on s'est entraîné à Jacksonville, on a eu la chance d'aller s'entraîner à TPC Sawgrass toute la semaine, fait que on peut pas se plaindre, puis on a essayé de prendre avantage de cette opportunité-là.
Petite parenthèse dans l'entrevue, tu me permets un instant, Étienne, juste vous informer qu'il y a une information qui circule actuellement sur les médias sociaux que les joueurs des Coyotes et tous les entraîneurs ont été informés qu'ils allaient être relocalisés vers Salt Lake City pour la saison prochaine, puis le reste des matchs à jouer, dont ce soir. J'y reviens. Paul Wilson, qui s'occupe et est responsable des communications pour la Coupe des Présidents qui aura lieu à Montréal au mois de septembre, fin septembre prochain. Une question pour notre ami Étienne Papineau, Paul.
Salut Étienne. En fait, Étienne, la question que j'ai pour toi, c'est qu'il y a trois Canadiens qui sont très bons en ce moment sur la PG, là, de Corey Connors, Nick Taylor et Adam Hadwin, qui sont en fait qui ont joué. J'ai pas vu leur classement aujourd'hui, mais ils étaient au Masters. Est-ce que tu parles à ces Canadiens-là? Est-ce qu'entre Canadiens, vous avez des contacts? Est-ce que vous encourager? Comment ça fonctionne?
Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, j'ai eu la chance d'avoir le même... un de mes entraîneurs de l'équipe canadienne, c'est Derek Ingram, qui est aussi l'entraîneur à Corey Connors. Fait que j'ai eu la chance de jouer récemment, je dirais, peut-être là, un ou deux mois. Je dirais début janvier, là, peut-être un petit peu plus. Ah, c'est ça, là, quasiment deux, trois mois, là, j'ai eu la chance de jouer avec Corey en m'entraînant en Floride au mois de janvier, justement, puis j'ai eu la chance de lui poser certaines questions, puis non, c'est sûr qu'en Canadien, on s'encourage, puis voir de plus en plus de Canadiens sur le PGA Tour performer, c'est sûr que c'est motivant pour nous autres, les plus jeunes, mais non, c'est ça, j'ai peut-être un petit peu plus de contact avec Corey, puis monsieur Adam Hadwin aussi, là, j'ai eu la chance de jouer avec lui en Arizona, fait que non, c'est le fun d'apprendre d'eux autres, puis les voir aller, là, puis pouvoir leur poser des questions, puis comment ils se préparent dans les tournois. C'est le fun de les voir aller, puis d'avoir la chance de pouvoir être en contact avec eux. Là.
Une question de l'ex-gérant de l'équipement du Canadien de Montréal pendant 35 ans, Pierre Gervais.
Salut Étienne. Est-ce que tu pratiques tous tes fers, tes bois, la short game, le putting, tout pas mal pareil, ou tu mets l'accent en plus sur la short game, disons, ou...
Oui, bien, ça dépend vraiment de comment ma semaine de tournoi a été. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui a mis un petit peu plus d'emphase sur mes maillons faibles. Je peaufine tout le temps, puis j'entretiens tout le temps ma force, qui est ma partie longue, les coups de départ, puis les coups de fer. Mais c'est sûr que je passe un petit peu plus de temps sur mes maillons faibles, là, comme la... Je n'ai pas un maillon faible, mais tu sais, c'est quelque chose que comme j'ai dit tantôt, que j'aimerais être plus constant. Fait que c'est sûr que je passe un petit peu plus de temps là, sur les coups d'approche autour des verres puis les coups roulés aussi. Là.
Stéphane White, ancien coach de gardien des Hawks de Chicago et des Canadiens de Montréal, une question pour toi, Étienne.
Salut, Étienne. Nous, dans le hockey, que ce soit baseball, football ou basket, ou tous les sports d'équipe, t'es la moitié du temps à la maison. Donc, t'as une place où tu restes. As-tu un pied à terre en quelque part? T'es tout le temps sur la route, t'es tout le temps dans les hôtels. T'as-tu un pied à terre à quelque part? T'as-tu une maison? T'as-tu une place pour dire à un moment donné, je reviens à la maison?
Ah non, c'est ça. Non, ben oui, j'ai un condo à Brossard avec ma copine. Mais
que tu sous-loues?
Ouais, exactement. Non, ben moi non, j'ai une place à Brossard, mais tu sais. Oui. Mentionné, on est souvent dans mes valises.
Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, nous autres, au hockey, ils disent, au moins, on passe la semaine à la maison, en voulant dire qu'on joue à Montréal, dans notre ville. Mais toi, t'es tout le temps sur la route, dans le fond.
Il joue toujours à l'étranger,
toi,
lui.
T'es tout le temps à l'étranger, t'es tout le temps visiteur, dans le fond.
Étienne, j'ai une autre question pour toi. Ouais. Est-ce que c'est toi qui fais la logistique de tes jeunes hôtels ou tout ça, ou t'as quelqu'un qui fait ça à ta place pour toi?
Non, ben c'est ça. Depuis que je suis rendu sur le Corn Ferry, je suis rendu avec un agent depuis le mois de novembre, en fait. Fait que ça, c'est sûr que ça facilite les choses pas mal là pour les déplacements, puis les hôtels, puis tout ça. Fait que non, mais jusqu'au mois de novembre, là, c'était moi qui s'organisais avec mes affaires, puis qui réglait tous mes déplacements, mes hôtels, puis tout ça. Mais là, avec un agent, là, ça facilite pas mal les choses, ça, c'est sûr.
T'es pas le plus gros des joueurs, Paul Wilson, qui est un Paul, tu me dis CC5, comment? CC5, ouais. Disais, je suis pas le plus gros cognard. On parlait, nous autres, on est des golfeurs amateurs, mais t'es pas le plus grand, le plus gros, mais tu frappes fort. C'est quoi la moyenne de tes coups de départ, pis c'est quoi la clé?
Ben, non, c'est ça, je suis pas, tu sais, je suis 5 et 8, pas un grand joueur, là, vraiment, j'irais en bas de la moyenne en termes de grandeur, là, puis, mais je pense, une de mes forces, d'optimiser mon swing, puis d'utiliser j'ai utilisé le sol puis la force dans mes jambes pour ma puissance, puis je me tiens autour de 300-305 verges, ce qui est assez haut pour de vrai. Je dis, puis je suis même pas proche d'être dans les plus longs là, sur le Corn Ferry. Je dirais que je suis dans la moyenne, en fait, mais
donc tu as la shape de Mike Weir. T'as la shape de Mike Weir, c'est ça?
Exact.
Étienne, j'aurais une autre question pour toi. Quand t'es arrivé sur le Corn Ferry Tour, c'est sûr que là, tu changes de circuit, t'arrives avec des joueurs de plus haut calibre. L'intimidation, t'arrives dans le range, tu vois les autres joueurs, tu te sentais comment dans les premiers tournois? Tu te sentais-tu à ta place? Ou tu disais, là, j'ai des choses à prouver, puis je vais passer à travers?
Ben, c'est sûr que les premiers tournois, mon premier tournoi, c'était au mois de janvier, là, sur le Corn Ferry Tour, c'était dans les Bahamas, puis je suis arrivé là, c'est des anciens joueurs du PGA Tour qui ont fait sur le Corn Ferry. Fait que, tu sais, des fois, tu joues, j'ai même joué, je pense, en première ronde de pratique avec un ancien champion du PGA Tour, qui s'appelle Ryan Armour. Fait que, tu sais, c'est sûr que sur le coup, c'est intimidant, mais plus que la saison avance, tu sais, plus tu te rends compte que les gars, sont vraiment quand même vraiment amicales, puis on s'aide entre nous, on compétitionne une fois que le tournoi a commencé, on est sérieux puis tout ça, mais tu sais, dans les rondes de pratique, tu sais, on est friendly, puis on s'entraide, puis non, c'est intimidant sur le coup, mais plus en plus que la saison avance, plus en plus je me sens à l'aise, puis c'est ça, il reste 20 tournois à saison encore, fait que je pense que je vais être de plus en plus à l'aise au fil de la saison.
Isabelle Etier, tu vas avoir l'honneur de lui poser la dernière.
Oh, c'est une question. On parle beaucoup de préparation. Préparation physique, préparation mentale. Quel est le pourcentage, là? C'est quoi la différence pour toi? Qu'est-ce qui est plus important un jour de match entre la préparation physique et mentale?
Oui, non, c'est une très bonne question, en fait, mais je passe beaucoup de temps sur ma préparation mentale, surtout depuis cette année. Je suis quand même un gars assez émotif sur le terrain de golf. Fait que c'est une partie de mon jeu que j'essaie de focusser un petit peu plus aussi. J'ai commencé beaucoup de techniques de respiration avec deux Québécois, dans le fond, qui m'aident beaucoup là, à ce niveau-là. Des grosses techniques de respiration puis de visualisation. Ça paraît pas, mais... le golf, c'est pas le sport le plus difficile au niveau physique, mais au niveau mental, c'est un sport assez demandant. Puis comme j'ai mentionné, c'est ça, je suis un gars émotif, fait que j'essaie un petit peu plus de contrôler mes hauts puis mes bas, puis que c'est ça, c'est comme j'ai mentionné, ça va être une longue saison, puis je pense que d'être prête puis d'être bien au niveau mental toute la saison, ça va être important. Fait que j'essaie aussi de focusser un petit peu plus là-dessus.
Je me donne une question, Bonnie.
T'as le droit.
Étienne, c'est quoi le plus grand... À quel moment d'une semaine, sur le terrain ou en dehors du terrain, que tu sens que ton mental est le plus testé?
Je dirais la fin de semaine. Plus en plus, en fait, que la semaine avance, plus en plus c'est drainant mentalement. Puis une fois arrivé la fin de semaine... ça paraît pas, mais tu sais, on arrive le dimanche suivant, on voyage le dimanche, puis on est au terrain le lundi, mardi, mercredi pour s'entraîner puis se préparer. Puis après ça, le tournoi jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu fais la coupure. Fait que rendu à la fin de semaine, le samedi, dimanche, on est assez drainé mentalement, mais ça fait partie de la game. Dans n'importe quel sport, c'est comme ça. Puis faut juste enjoyer ça, puis essayer de prendre avantage de ça. C'est pareil pour tout le monde, puis il faut juste que tu en ressortes le plus fort de la gang.
Là, je donne une dernière question, Bonnie, parce qu'on va être dans le trouble de la gestion des publicités. Vas-y, Ben.
Hey, Étienne, comme tu sais, les conditions de parcours, tu joues en Afrique du Sud, tu joues aux États-Unis, tu joues au Canada, le Bengrass, le Poa, c'est pas toujours évident à s'adapter à tout ça, hein?
Non, effectivement, puis c'est pour ça que j'ai voulu passer la semaine ici à Jacksonville, sur le Bermuda, qui est selon moi un des gazons les plus difficiles à jouer dessus. Fait que j'ai passé toute la semaine là-dessus à m'entraîner puis à peaufiner mon jeu court, parce que c'est quand même, tu sais, ça demande des techniques un petit peu différentes selon moi, selon le type de gazon. Fait que passer la semaine là, sur le Bermuda, ça m'a définitivement donné un petit peu plus de confiance. Là.
Plus de questions, Bonnie. On te souhaite juste des bonnies de performance, mon cher Étienne. Merci beaucoup de l'entretien. Puis lâche pas. Puis on est tous derrière toi. Écoute, tu peux pas. On te surveille de presque de coup en coup sur nos applications. Fait que bonne chance pour la suite des choses. Pour plaisir de t'accueillir en studio quand ça donne.
Ben certainement. Merci de m'avoir reçu, puis bonne fin de soirée à vous autres.
Merci. Étienne Papineau, qui est le golfeur le plus près de la PGA sur le Korn Ferry Tour.
Les amateurs de sport.
C'est 23.